RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Effervescence. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour sonder l'actualité culturelle et y repérer des pépites qui nous vont bien. Alors comme chaque semaine, il y en aura pour tous les goûts dans cette émission, avec une tonalité très musicale, mais je ne vous en dis pas plus. Une émission où l'on prendra plaisir à aller se balader dans nos musées, des musées qui sont en fait ce week-end à l'occasion de la 19e édition de la Nuit des Musées. Et cette semaine, trois chroniqueurs avec nous. François-Xavier Maigre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par liaison numérique. Après des années dans le journalisme, vous faites maintenant du conseil, mais vous restez avant tout un homme de culture. On connaît votre passion pour le rock et vous rendrez hommage à Ed Sheeran qui sort un nouvel album. Et puis vous avez grandi dans les années 80 et Retour vers le futur fait partie de vos films cultes. Vous avez pris le shuttle pour aller à Londres découvrir la comédie musicale tirée de ce film de science-fiction. Agnès Manoretonil, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour la revue Études. Alors, vous n'avez pas été à Londres, mais vous avez été en Normandie découvrir un petit musée méconnu, le musée Michel Serre. Vous nous direz tout de cet artiste qui avait décidé de s'installer au cœur du Pays de Caux. Et puis, vous avez lu Un siècle de femmes, qui n'est pas un essai, mais un roman et même un premier roman. Éric Dupri, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes à Toulouse, le monsieur culture de Radio Présence. Vous rendrez hommage à Philippe Solers qui s'est éteint le week-end dernier. Et puis vous nous ferez découvrir un jeune pianiste toulousain, Vincent Mussat. Et puis avec vous, on célébrera les 20 ans d'un festival, Jazz en Comminges, qui se tient très prochainement à Saint-Gaudens.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Alors, à quelques jours du Festival de Cannes, la comédienne Adèle Hanel a claqué la porte du monde du cinéma. Dans une tribune dans Télérama, elle raconte son écœurement face à l'incapacité du cinéma à lutter contre les violences faites aux femmes et les abus en tout genre. Adèle Hanel, qui avait déjà claqué la porte des Césars, on se souvient de sa formule « on se lève et on se casse ». C'était en 2020, Polanski venait d'y être couronné. Adèle Hanel veut désormais se consacrer à un combat plus politique sur les planches et dans les cortèges, les sittings et les occupations d'usines. C'est son droit, c'est son choix. Ici, dans Effervescence, on veut continuer à croire que les artistes, les auteurs peuvent contribuer à rendre le monde meilleur, à pointer du doigt ce qui fait mal et ce qui coince, en imaginant aussi d'autres futurs. Nous croyons aussi que les artistes, les auteurs peuvent participer à adoucir nos peines et nos douleurs et les difficultés de la vie humaine en contribuant à créer du bon et du beau, ce qui fait briller les yeux et met du baume au cœur, non pas pour nous divertir, mais pour nous rendre plus sensibles, bref, plus humains. Nous pensons ici que nous avons donc besoin des artistes, de tous les artistes dans leur diversité, de sensibilité, de rapport au monde, besoin de leur lucidité et de leur créativité, et que c'est toujours un échec quand l'un ou l'une d'entre eux jette l'éponge.
Dans 50 ans, les œuvres d'art seront reçues par les jeunes comme des choses qui n'appartiennent à personne. Parce que appartenir à l'État, c'est pas sérieux. Parce que le type pense que, évidemment, il peut pas prendre le Goya et l'emporter chez lui. Mais enfin, il appartient pas au monsieur qui est conservateur. Ça, ce sera fini. Et c'est très important. Parce que toute une conception de la peinture était parfaitement liée à la possession privée. Et maintenant, disons, les petits Hollandais. Bon, alors, la salle à manger, car c'était généralement pas des salons, dans laquelle la peinture se trouvait, a disparu. Il y a l'atmosphère du musée, qui est toute différente. Le tableau est avec d'autres tableaux, alors qu'il était avec deux autres. Il n'appartient plus à personne. Il n'est plus à l'intérieur de la vie quotidienne. Enfin, on est en train de faire entrer l'art dans un domaine abstrait qui est absolument un domaine qui lui appartient.
Voilà, André Malraux évoquant l'avènement des musées et le changement de rapport aux œuvres d'art que cela entraînera. Je vous ai ressorti cette vieillerie parce que, de fait, grâce à l'essor des musées, le rapport aux œuvres a changé. Et c'est vrai que depuis 40 ans, le nombre de musées se compte par milliers dans notre pays. 3000, voire 10 000 selon la définition que l'on utilise, les labels auxquels on se référence. Mais de fait, Malraux avait raison, l'accès à l'art et aux beaux-arts s'est démocratisé et les institutions culturelles multiplient les opérations pour attirer des publics toujours plus variés. L'image du musée poussiéreux a vécu. Aujourd'hui, les musées innovent et sont en permanence sur la brèche pour faire découvrir leurs collections. Et ce sera particulièrement le cas ce week-end à l'occasion de la 19e Nuit des musées qui se tient samedi et à laquelle participe un très grand nombre d'institutions en France et en Europe. Et pour nous, dans Effervescence, c'est l'occasion de redire notre amour des musées, mais aussi de redire pourquoi il est important qu'ils existent. Avec une question bête, mais essentielle, pour ne pas oublier les enjeux qui existent derrière ces établissements, ça sert à quoi un musée ? Dans l'actualité, on parle beaucoup des musées. Il y a ces affaires de restitution, il y a ces musées qui ferment pour travaux, et dont on se demande où vont aller les collections, c'est le cas du Centre Georges Pompidou, et puis ceux qui ouvrent ou qui vont ouvrir. Bref, ça sert à quoi ? Un musée. Allez, qui veut commencer ? Agnès Rétonil, ça sert à quoi un musée ?
Alors pour moi, un musée, ça sert à faire connaissance avec un lieu, faire connaissance avec les gens qui l'habitent et retrouver, à travers ce qui est exposé dans le musée, la trace de ceux qui ont fait les paysages, qui ont fait l'histoire d'un pays, d'un terroir, d'un territoire. Donc dès que je vais quelque part, je vais souvent en vacances à droite, à gauche, en France, je commence par aller dans le musée... Le musée du coin, le plus petit musée local. Et j'ai des souvenirs émerveillés de tous ces lieux qui sont souvent tenus par des bénévoles et qui nous permettent de découvrir dans 3-4 salles ce qui a fait qu'on voit aujourd'hui ce paysage. Alors je pense par exemple au musée des Deux Marines et du Pont Canal à Briard qui nous raconte l'histoire de la batellerie sur les canaux de la Loire, et c'est une association qui tient ce musée. Ils ont fabriqué des poupées à taille réelle qui nous montrent tous les métiers de la Loire. Alors on voit la femme qui lave son linge, celui qui fait des cordages, et vous allez au guichet du musée et là vous trouvez quelqu'un qui connaît par cœur l'histoire de l'industrie, de la construction du pont. Voilà, c'est un exemple de musée que j'aime, et il y en a plein comme ça.
C'est vrai que moi j'évoquais les musées des Beaux-Arts, mais vous nous parlez des musées d'art et de tradition populaire, ouais, qu'on trouve un peu partout en France et qui effectivement nous ancrent bien dans une histoire et dans un terroir.
Oui. Et qui sont mis beaucoup en valeur dans cette nuit européenne, dans cette nuit des musées.
Éric Dupri, ça sert à quoi pour vous un musée ?
Moi, à l'origine, un musée, c'était surtout le lieu du silence, de la quiétude, pour contempler, admirer tranquillement les beautés, les merveilles que nous ont laissées les siècles passés, et puis les artistes d'aujourd'hui, bien sûr. Mais bon, il y a un aspect, d'ailleurs, qu'a évoqué un petit peu Agnès en passant, c'est l'aspect économique aussi et touristique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui créent des musées, de communes ou de grandes villes qui créent des musées aussi, pour attirer le touriste, pour le garder un peu sur place, pour qu'il ait de l'offre culturelle, comme on dit. Donc ça compte aussi beaucoup. Et puis, il ne faut pas négliger non plus un autre aspect aujourd'hui, c'est l'aspect restauration, mise en valeur, exposition des œuvres publiques, mais aussi, il y a tout un marché derrière, il y a toute une économie. Et aujourd'hui, alors ça, moi, c'est une dérive que je regrette, parce qu'encore une fois, pour moi, un musée, c'était d'abord le lieu pour venir admirer, contempler tranquillement la massification de la culture, le fait qu'on veuille absolument y faire venir les touristes, tout ça, avec toutes les nuisances qu'il y a derrière, le bruit, le mouvement, les gens qui font des selfies, qui vous demandent même parfois de les prendre en photo devant un tableau, moi ça me gâche complètement la visite. Bon, voilà, donc ça, mais ça c'est une dérive un peu générale à partir du moment où la culture est devenue le culturel, puis l'industrie culturelle, puis l'économie culturelle. Bon, c'était sans doute le prix à payer. Mais alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir entendu Malraux. Alors ça c'est très bien, parce que la grande théorie de Malraux, c'était la théorie du choc esthétique, ce qu'il appelait le choc esthétique. On allait montrer les grandes œuvres à des gens absolument pas initiés, pas préparés à les recevoir, et puis bon, le choc allait faire qu'ils allaient s'y intéresser et qu'après ils allaient avoir envie de découvrir l'immensité de ce
Vous
terrain qu'on appelle
ça,
l'art et la culture. Non, bien sûr que non, moi je n'y crois pas. Et malheureusement, alors, les intentions de Malraux étaient très bonnes, et il n'y a pas eu du mauvais dans tout ça. Mais la dérive que je pointais tout à l'heure, elle part de là quand même, l'origine est là, malheureusement. Et on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
C'est peut-être pour ça qu'on est en place autant de médiation culturelle, comme on dit aujourd'hui, dans lequel s'inscrit bien sûr cette nuit européenne des musées. On a compris que vous étiez mitigé sur ce genre d'opération. François-Xavier Maigre, ça sert à quoi pour vous, un musée ?
Moi, ce que j'attends d'un musée, c'est d'être transporté dans un autre univers que celui dans lequel je vis. Et j'aime les musées, pas forcément les grands musées prestigieux, moi j'aime les musées qui sont immersifs et dans lesquels je peux vraiment m'abandonner à un univers en particulier. Et par exemple, j'aime beaucoup le musée des pêcheries à Fécamp, qui surplombe le port et qui nous immerge dans la vie des pêcheurs. Aussi à travers le temps, on est vraiment à leur côté, on vit leur quotidien, leurs dévaines, leurs sorties en mer à travers des films, à travers des objets du quotidien. Et ça, je trouve ça extrêmement éloquent à vivre, notamment en famille. Et j'aime aussi beaucoup, alors j'en ai choisi deux, j'aime aussi beaucoup le musée de Montmartre, qui est niché dans un ancien atelier d'artiste où énormément de grands peintres de Montmartre ont créé. C'est un musée qui existe depuis les années 60 et qui est extrêmement émouvant parce qu'on est vraiment plongé dans la vie bohème de Montmartre au temps de l'âge d'or des peintres et de toute cette effervescence culturelle qu'il y a eu sur la butte. Et voilà, moi j'aime ces musées qui m'offrent une parenthèse dans mon quotidien.
François-Xavier, vous nous le racontez régulièrement, vous êtes un père de famille, vous allez au musée avec vos enfants, comment vous y prenez ?
Ben, oui, j'y vais souvent avec les enfants. J'essaye de, de choisir des musées où je sais que les trois pourront avoir un intérêt particulier. Et après, je pense qu'ils n'ont pas tous la même capacité d'attention, donc je les laisse un petit peu vivre le truc, chacun à leur rythme. Et je leur mets pas la pression parce que je sais que c'est pas forcément toujours marrant quand on est jeune. Par exemple, on avait été visiter il y a pas très longtemps le musée des images d'Épinal dans la ville du même nom.
Vous nous avez parlé, je crois bien.
Ouais, tout à fait. Et ça les avait beaucoup touchés en fait de redécouvrir une bonne partie de l'histoire de France à travers ces petites vignettes qui sont l'ancêtre de la bande dessinée. Donc voilà, j'essaye toujours qu'il y ait une porte d'entrée assez ludique et assez adaptée à leur âge.
Éric Dupri, vous, quand vous êtes dans un musée, vous faites tout le musée, vous faites une seule salle, vous arrêtez juste sur une œuvre, comment vous faites ?
Oh non, j'essaye de faire tout le musée, j'essaye d'avoir du temps pour me permettre de le faire. Si j'ai envie de m'arrêter devant une œuvre un peu plus longtemps, je m'arrête plus longtemps. Si j'ai envie de passer plus vite parce que je ne suis pas retenu parce que je vois, je passe rapidement. Il n'y a pas de règle. Moi, il faut que, en tout cas, personnellement, je veux que ce soit très libre, et y compris pour la personne qui m'accompagne. Donc voilà, on peut se séparer. Chacun va naviguer dans une galerie ou l'autre. Il faut que ce soit aussi un petit peu une aventure, la visite d'un musée. Et puis, il faut se laisser porter par les œuvres qu'on croise.
Agnès Manoret-Tonil.
Alors moi, j'aurais envie de vous parler d'un conseil que j'ai trouvé dans un livre d'Emmanuel Guibert, qui est le père de Ariol, le petit âne bleu,
oui.
Mais qui est aussi un excellent artiste, et qui dit dans un petit livre qui s'appelle « Dessiner dans les musées » que la meilleure chose à faire quand on entre dans un musée, et même si on est nul en dessin, c'est de choisir une œuvre, de se mettre devant et d'essayer de la reproduire, de la dessiner. Et je dois dire que quand je me suis dit, mais tiens, je vais essayer d'appliquer ce conseil alors que je suis nulle en dessin, ça a complètement transformé mes visites dans les musées, et en particulier dans les grands musées qui m'impressionnent toujours beaucoup. Je crains de ne pas avoir assez de connaissances, de savoir pour interpréter l'œuvre. Et ça a changé ma façon de rencontrer les œuvres d'art. Et quand on va dans les musées avec les enfants, c'est ça que je leur conseille aussi, c'est... Bon, un petit coup d'œil, et puis ensuite choisir une œuvre, s'asseoir, sortir son crayon, son papier, et d'essayer de dessiner ce qu'on peut. Je dois dire que c'est été une révolution, donc j'ai envie de la partager. Ça change le regard.
Merci pour ce conseil, je crois qu'il va intéresser beaucoup d'auditeurs. François-Xavier, vous nous avez parlé du musée de Montmartre, vous nous avez parlé des pêcheries à Fécamp. Éric Dupri, vous ne nous avez pas dit votre musée de cœur ou vos musées de cœur ?
Alors, si j'en donnais un pari, ce sera le musée Jacquemart-André, parce que j'aime beaucoup le lieu et la façon dont les œuvres sont exposées, même s'il y a un petit moment que je n'y suis pas allé, pour être tout à fait honnête. Et puis, dans la région où je vis, il y en a deux qu'il faut faire, selon moi, absolument. C'est le musée Ingres-Bordel à Montauban, qui a été rénové récemment, et le musée Toulouse-Lautrec à Albi. Lui aussi, alors les deux d'ailleurs sont dans des lieux absolument magnifiques. Voilà, ce seraient les trois musées que, pour ma part, je conseillerais. Mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment.
Agnès Manoret-Tonil, je crois que vous avez un musée de cœur, vous aussi.
Alors, le musée de cœur, c'est à La Haye, le Maurice Suisse. qui est un grand musée de peinture hollandaise. Et en fait, c'était le premier voyage à l'étranger que j'ai fait avec mes parents. J'étais assez jeune et c'était la première fois que j'allais dans un musée avec des très grandes œuvres. J'en garde un souvenir ému aussi parce que c'est un lieu magnifique. C'est une grande maison de maître. Et je n'y suis jamais retournée. Donc, il reste dans mon souvenir très haut, sur un magnifique nuage, comme une rencontre avec l'art, une première rencontre avec l'art.
Alors, il y a des musées qui ferment et d'autres qui ouvrent. Celui consacré à l'œuvre et à la mémoire de Serge Gainsbourg ouvrira le 20 septembre prochain au 5 bis rue de Verneuil, hein, l'appartement du chanteur à la tête de chou. Les premières visites, imaginez-vous, sont déjà complètes. On se consolera en écoutant son œuvre. Tiens, au hasard, puisqu'elle fait la une avec une série sur France Télévisions, Initial bébé, Brigitte Bardot.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt.
Initial Baby, donc pour visiter le musée Gainsbourg, hein, il ouvre en septembre et les places sont déjà rares. Pour la nuit des musées, vous avez compris, c'est beaucoup plus simple, c'est souvent gratuit et surtout, c'est pas loin de chez vous.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
C'est un dandy, maître des lettres françaises, qui s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 85 ans. Écrivain, polémiste, Philippe Soler s'animait la vie littéraire française depuis les années 60. Éric Dupri, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de l'œuvre ou du personnage ?
Il y aura tellement de choses à dire que bon, on va se concentrer sur le fait que c'était un personnage central dans la vie littéraire française, le milieu littéraire et intellectuel français depuis même la fin des années 50, parce que Solers publie à 22 ans son premier roman en 1958, Une curieuse solitude, et il est tout de suite salué par Louis Aragon et François Mauriac, et Solers aura ce mot assez drôle. Ouais, il avait 22 ans, Solers aura ce mot assez drôle en disant qu'il avait été salué à la fois par le Kremlin et Rome, vous voyez. En 61, il a le prix Médicis avec Le Parc. Donc très vite, hein, il crée la telle quelle sa revue en 1960 avec Jean Edernallier et Jean-René Huguenin. Alors c'est très important ces trois-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous nés en 1936. Et cette génération va beaucoup compter dans la vie littéraire française jusqu'à nos jours. Le dernier de la bande, si je puis dire, qui n'était pas tout à fait dans la bande, mais né aussi cette année-là, c'est Gabriel Matzneff qui les aura tous enterrés finalement.
C'est pas le plus recommandable.
Il y avait Dominique Leroux qui lui... Non, mais bah, Solers, ça sera intéressant de voir que Solers avait aussi signé le fameux appel là, pour dépénaliser la pédophilie en 1977 paru dans Libération. Il était dans la bande. Hein. Mmh. Bon, il a reconnu bien des années après qu'il avait fait une connerie. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Qu'il s'était laissé entraîner, qu'il n'avait pas bien mesuré les conséquences de cette signature. Éditeur chez Gallimard. Il a publié beaucoup d'écrivains qui, bon, pour certains d'ailleurs, sont morts bien avant lui. Il y avait Frédéric Berthet dans la Bible, il y avait Jean-Jacques Schull, Matzneff, il a publié Matzneff dans l'infini, Marc-Edouard Nab, David Dinota, Yannick Enel, qui n'a rien à voir avec
Adèle,
celle dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis quelques livres qui ont marqué tout de même. Il a eu un grand succès, je pense qu'on peut dire son unique succès grand public, un peu au-delà du cercle vraiment des lecteurs très littéraires, c'est Femmes, paru en 1980. 83. C'est des portraits de femmes. Alors, ça vaut le coup de le relire peut-être aujourd'hui, 40 ans après. Et puis, moi, je citerai peut-être il a publié beaucoup d'essais d'essais critiques sur des artistes, des peintres, des musiciens. Il y a son livre sur Mozart, Mystérieux Mozart. J'ai jamais compris pourquoi il avait appelé ça Mystérieux Mozart. Parce que s'il y a un compositeur qui n'est pas mystérieux, sur lequel tout est très bien renseigné, c'est bien Mozart. Bon, enfin, bon, pourquoi pas.
C'est l'éditeur.
L'éditeur c'est lui. Donc, vous voyez, bon, je crois pas trop. Et son livre La guerre du goût, qui est un recueil de critiques paru en 1994, si ma mémoire est bonne, dans lequel je pense que ça vaut le coup de se replonger également aujourd'hui. Mais il a publié 80 livres, Philippe Solers. Donc, on pourrait en citer bien d'autres. Bon, ces dernières années, on le voyait, on l'a beaucoup vu à la télévision à une certaine époque. Il était régulièrement invité chez Bernard Pivot et dans beaucoup d'autres médias. Il s'est un peu perdu. Alors, ce qui est drôle, c'est que après sa mort, il y a eu énormément de réactions. Bizarrement, une assez grande unanimité pour le saluer, ce qui m'a un petit peu étonné. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, ça sera un petit peu différent. C'est Bec Bédé qui l'a salué comme le parrain des lettres françaises. Et c'était pas du second degré du tout. Il y avait un petit côté comme ça chez Solers, effectivement, parce que autant il a soutenu certains écrivains, autant il y en a d'autres qu'il n'a pas soutenu du tout. Petite anecdote, et Amélie Nothomb lui avait envoyé le manuscrit d'Hygiène de l'assassin, qui sera son premier roman, et il avait refusé en lui envoyant un petit mot où il était simplement écrit « Je n'aime pas les canulars ».
Et ben voilà, on n'a pas toujours raison.
Alors là, il a raté un coup pour Gallimard, hein, parce qu'elle a fini chez Albin Michel. Mais c'était, je pense, Antoine Gallimard, avec qui il était très très ami, ils étaient très proches, là, peut-être un peu voulu. Mais bon, voilà. Alors Philippe Solers, comme beaucoup de personnes comme ça, c'est une page qui se tourne. C'est une génération qui part, qui aura encore une fois beaucoup compté dans les lettres françaises. Ma foi, je n'ai qu'une chose à dire, qu'il repose en paix. Il a été enterré ou il va être enterré. Je pense que ses obsèques n'ont pas encore eu lieu à Ars-en-Ré. Il avait une maison à l'île de Ré. Il a souhaité être enterré là-bas. Il était bordelais à l'origine, né à Talence. Mais il a souhaité être enterré là-bas. Donc, que l'éternité lui soit douce.
Merci beaucoup pour ce portrait, Eric Dupri, de Philippe Solers. La transition est un peu délicate, hein, après la disparition d'un homme de lettres. On va parler d'un musicien, un chanteur pop folk, Ed Sheeran. Alors François-Xavier, le fil entre les deux, c'est peut-être la question du deuil.
Oui, un fil assez ténu, mais
on va y arriver.
Mais on va y arriver. Non, mais je voulais vous parler de ce disque parce que je pense que c'est une musique qui peut faire du bien à beaucoup de gens. Ed Sheeran, c'est un chanteur anglais. Qui a une voix magnifique, qui écrit très très bien et qui s'est illustré, qui a eu un succès vraiment planétaire ces dernières années à travers des chansons pop, folk. Il a écrit pour beaucoup de personnes. Alors c'est de la musique très radiophonique, mais moi j'ai été particulièrement sensible à son dernier disque où je trouve qu'il revient à quelque chose de très simple, juste sa très belle voix, très chaleureuse, sa guitare acoustique assez magique. Et on sent que ce garçon a commencé à vieillir, qu'il a traversé la dépression, la perte d'un ami très proche, la maladie de sa femme enceinte. Voilà, une série d'épreuves qui l'ont accablé et dont il a tiré un très très beau disque vraiment lumineux. Et je trouve que c'est magnifique de voir qu'aujourd'hui encore, il y a de jeunes artistes, de tout jeunes artistes comme Ed Sheeran, parce que il doit être encore dans sa trentaine, qui sont capables de réinventer ce genre de la pop musique, dont on croit tout savoir et qui peut encore réserver de magnifiques pépites.
On va écouter, ouais. François-Xavier, on va écouter un premier extrait.
Ouais.
Ça s'appelle Life Goes On.
Hit like a train, I ran out of words, I got nothing to say. Everything hurts, and I know love leads to pain. But memories serve our sweetest refrain. The waves came tumbling down as you float away. I'm reaching for you to tell me how my life goes on with you gone. I suppose I'll sink like a stone if you leave.
the storms will roll. Easy come, hard go. Then life goes on. I miss the flames, the heated reserve. Oh, I remember the way that you put me first. What a heart-wrenching shame. You'll never know, just like tears in the rain. A constant gray in the clouds.
Life Goes On, un premier extrait du dernier album d'Ed Sheeran. Ed Sheeran, François-Xavier Maigre, il est aussi dans l'actualité, une actualité judiciaire, mais plutôt heureuse pour lui.
Ouais, bah ce chanteur de 32 ans vient de gagner un procès. En fait, il était poursuivi par des héritiers du grand chanteur américain Marvin Gaye pour un prétendu plagiat. Voilà, deux chansons qui, selon les plaignants, présentaient des similitudes qui pouvaient pas être liées au hasard. Et en fait, Ed Sheeran, il a souvent été attaqué pour ça. Alors, il a parfois perdu, mais là, ça fait deux fois qu'il gagne ses procès. Et j'ai trouvé que il avait vécu ça. Bah, ça a été quand même un traumatisme pour lui parce qu'on remet en cause son intégrité morale, son honnêteté. Et en fait, il s'est pointé au tribunal avec sa guitare et il était voilà, il a joué devant la cour pour démontrer par A plus B que c'était des chansons différentes et que en fait les deux n'avaient rien à voir, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord. Et il a fait un très beau discours en sortant du tribunal après son acquittement, où il explique en fait que quelque chose d'essentiel pour moi, c'est une musique qui est faite de beaucoup d'emprunts, la pop music, le rock, c'est rien n'est né de nulle part. Et il y a ce truc qui revient un peu souvent maintenant des plagiats. À la moindre chanson qui a du succès, on cherche si elle a été plagiée, alors qu'en fait, voilà, il n'y a pas de génération spontanée, rien ne naît ex nihilo, et on est toujours l'héritier de quelqu'un. Et j'ai trouvé qu'il le défendait très bien. Et il est monté sur le toit d'une voiture dans les rues de New York, il a offert un concert à la foule. Et j'aime ce panache, en fait, chez ce jeune artiste anglais qui est plein de discrétion et d'élégance.
Et avec une forme de maturité, on écoute un deuxième extrait, La fin de la jeunesse.
I've been depressed since you left, tried to fill the hole with wine, stop the drugs when she came, clean my act up overnight. If you reach with no reply, I'll see you when I see you, man. You can't talk me through the fall if we don't know if I can land. Try to grow, but the past, it tears me down to size. Tell the world how to process, but don't take the same advice. I remember what I say, then the morning's filled with fear, can't get a handle on my grief when every memory turns to tears. It's been a long year and we're not even halfway there. Is this the ending of our youth when pain starts taking over? I just don't know if I can never just let it go. Everything's falling apart.
Ed Sheeran, The End of Youth, extrait de son dernier album, Subtract.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Allez, on va maintenant en Normandie, dans Effervescence, avec vous, Agnès Manour et Tonil. Vous avez été au musée Michel Siri. C'est à Varengeville, en Seine-Maritime. Alors peut-être d'abord présenter Michel Siri ou on présente le lieu ? Les deux ?
En fait, on présente les deux en même temps. Parce que ce musée Michel Siri, c'est Michel Siri lui-même qui en a organisé l'installation. C'est là où il a vécu pendant une très grande partie de sa vie. Il est mort centenaire en 2018, après toute une vie de création, puisqu'il avait commencé déjà à 15 ans dans la gravure. Il a ensuite composé et il a fait de la peinture sur l'huile, de l'aquarelle. Et toute son œuvre est marquée par son goût de la solitude et sa recherche d'une expression artistique très absolue, très intense. Alors, comme c'est un artiste de Normandie, de Varengeville, vous allez imaginer peut-être que je vais vous parler de peinture marine. En réalité, ce dont je voudrais surtout vous parler, c'est des portraits de Michel Siri.
Vous m'en avez apporté un qui est bouleversant.
Je vous ai apporté un portrait de vieille femme. Les vieilles femmes font partie des figures qui reviennent souvent dans l'œuvre de Michel Siri, mais il y a aussi des arlequins, des moines et beaucoup de figures bibliques. Donc pas forcément des personnes réelles, mais plutôt des types, et qui ont tous ce même regard brûlé, un visage un peu émacié de quelqu'un qui a touché quelque chose de l'absolu. Et vous êtes devant le tableau, et vous avez l'impression que ce regard se plante dans vos yeux et vous dit « et pourquoi est-ce que toi tu vis ?» Donc pour moi c'était vraiment une découverte, Michel Siri. J'avais déjà vu une première fois des tableaux de lui, j'avais déjà été à Varengeville, et il y a dans l'église Saint-Valéry, qui est au milieu d'un cimetière marin près de la falaise, c'est magnifique, un triptyque de Michel Siri. On ne voit pas la croix, mais on voit Marie, Madeleine et Jean-Baptiste, qui sont des peintures à l'huile avec des visages qui se ressemblent les uns les autres. Finalement, ce qui fait la différence entre ces personnages, c'est la couleur de leurs vêtements, qui est vraiment une couleur très profonde, très forte, qui dit quelque chose de ce qui habite le personnage. Et j'ai eu envie de voir ce que Michel Siri avait fait d'autre.
Et c'est pour ça que vous avez été dans son musée.
Voilà, et j'ai bien failli ne pas y aller, puisque c'est un musée qui n'ouvre pas toute l'année. Donc j'y suis allée
horaire fluctuant,
mais à partir du 1er mai et jusqu'en septembre, on peut y aller tous les jours. Et il y a une salle aussi pour des expositions temporaires. Et en ce moment, il y a un artiste qui s'appelle Mathias Costa qui expose des œuvres avec des médiums très divers. Il y a même des planches de skateboard qui sont peintes au marqueur. C'est très intéressant. Je conseille à tous les auditeurs là, de Seine-Maritime d'aller faire un tour à Varengeville pour Michel Siri, Mathias Costa et puis la falaise, bien sûr.
Et puis la falaise, voilà. On retient son nom, c'est Michel Siri. Bah, merci de nous l'avoir présenté, Agnès. Merci pour votre fidélité à Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Je suis avec Agnès Manoret-Tonil, avec François-Xavier Maigre et avec Éric Dupri. Et dans vos oreilles, quelques notes de Maurice Ravel, une pièce que l'on peut retrouver dans un album signé d'un jeune interprète, Vincent Mussa. C'est un de vos petits protégés, Éric Dupri, vous nous le présentez ?
Oui, c'est un Toulousain, excusez-moi, j'étais un petit peu chauvin sur ce coup, mais il se trouve que l'école de piano toulousaine produit depuis maintenant plus de 20 ans régulièrement de très bons, voire de super pianistes, comme les plus connus sont évidemment Bertrand Chamaillou, Adam Laloum, il y a Nathanaël Gouin aussi, et puis il y a Vincent Mussa qui fait une carrière peut-être plus discrète, mais qui trace son sillon avec un certain entêtement dans une certaine direction. Vous avez pu entendre là dans cette pièce dont le titre est Jeu d'eau de Maurice Ravel, pièce de relative de jeunesse, il avait 25-26 ans quand il l'a composée, toute la finesse du jeu de Vincent Mussa, tout en nuances, avec ses sonorités très colorées qui se prêtent parfaitement à la musique française, à celle de Ravel et aussi à celle d'Henri Dutilleux. Vincent Mussa est un grand défenseur d'Henri Dutilleux, et donc ce CD, c'est son premier, qui vient de paraître sous le label Scala Musique, présente des pièces d'Henri Dutilleux et de Maurice Ravel. Ravel, il y a Jeu d'eau et il y a Gaspard de la Nuit, qui est trois pièces de piano extrêmement difficiles à jouer d'ailleurs. Et puis, Au gré des ondes, c'est le titre d'un recueil de 6 pièces pour piano composées par Henri Dutilleux en 1946. C'est pas pour rien que Vincent Mussa a voulu que son premier CD soit largement consacré à du Tilleul et reprennent le titre d'une de ses œuvres, voilà, Au gré des ondes. Donc ce qui est très présent dans cet album, c'est toutes ces sonorités, vous voyez, un peu liquides, très présentes dans Jeu d'eau, mais aussi les ondes sur l'eau, les ondes, les sonorités, la musique. Voilà.
On écoute.
Et puis, on peut écouter effectivement Au gré des ondes, justement, la première pièce prévue dans Berceuse.
Vous voulez souligner un point commun?
Un point commun entre. Alors, du Tilleul s'inscrit dans les pas de Ravel, vous savez, les deux pères de la musique française du XXe siècle, début du XXe, c'est Debussy et Ravel. Et du Tilleul s'inscrit vraiment dans les pas de ces deux maîtres, notamment Ravel. Et ils avaient un point commun, tous les deux, c'est qu'ils aimaient le jazz. Donc, il y a souvent des éléments de jazz dans leur, à partir d'un certain moment pour Ravel et chez du Tilleul dans leur composition. Voilà, et donc là on va écouter Prélude en berceuse, c'est la première des six pièces du recueil intitulé Au gré des ondes, on écoute par Vincent Mussat.
Voilà, précipitez-vous sur cet album signé du jeune pianiste toulousain Vincent Mussat.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Un peu de littérature dans cette émission. On a commencé avec Philippe Solers. Et bien là, on va découvrir un premier roman. Il est signé Mathilde Ribaud. Agnès Manoretonil, c'est vous qui l'avez lu. Moi, j'aime pas le titre, hein, parce que je trouve que c'est pas très sexy. Ça s'appelle Un siècle de femmes. En revanche, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, parce que je l'ai pas encore lu. La couverture, c'est une photo. Vous nous la racontez?
Alors, sur la couverture, sur la moitié de la couverture, on voit sur une photo en noir et blanc, quatre femmes qui sont en train d'être coiffées. C'est un salon de coiffure qui, sans doute, n'est pas très rigolo à la façon dont les femmes nous regardent, très fixement. Ça doit se passer dans les années 50. Les coiffeuses et coiffeurs sont en blouse blanche.
Chirurgicale.
Alors, c'est sans doute pour faire référence au salon de coiffure dans lequel Émilienne, un des personnages de ce livre, officie, sans joie, sans vocation. Et puis, à un moment où aller chez le coiffeur, ça n'est pas pour se faire belle, pour prendre soin de soi. On y va simplement parce qu'on y va.
On doit y aller.
Et c'est peut-être une façon d'entrer dans le roman, de montrer l'évolution, parce que je suis désolée Stéphanie, mais ce titre en fait est assez bien choisi, puisque c'est bien un siècle et il s'agit bien de femmes. Il faudrait ajouter quelque chose, c'est que ce roman se passe dans les Landes et que c'est aussi le roman d'une région. Donc on va découvrir la région par élargissement. Au début du siècle, on est à Azur. C'est un tout petit village dans les Landes, pas très pauvre, mais pas très riche non plus. La guerre va évidemment durablement marquer les familles. Et on va suivre l'histoire de Marie, puis d'Émilienne, puis de Colette, puis de Nathalie, qui vont progressivement sortir d'Azur, et puis on va aller dans le bourg d'à côté, qui est un peu plus gros, et puis ensuite dans la ville de province. Et c'est toute l'histoire, en fait, de la société française que l'on suit à travers l'histoire de ces femmes. Et ce que Mathilde Ribaud nous dit, alors j'ajoute que Mathilde Ribaud, c'est peut-être un premier roman, mais c'est une femme de lettres accomplie. Elle a fondé les éditions Manutius. Là, elle publie dans une maison qui est l'Atelier Contemporain. Et ce qu'elle nous dit, Mathilde Ribaud, c'est que la libération des femmes qu'on suit à travers l'histoire de Marie, d'Émilienne, de Colette et de Nathalie a peut-être son revers. Et son revers, c'est le même revers que celui du progrès. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a gagné avec le progrès ? On a gagné une facilité de vie, on a gagné le fait de ne pas se préoccuper du lendemain. Et elle parle très bien de la façon dont, dans ce petit village des Landes, on était sans arrêt en train de se demander si la saison serait bonne, si on aurait assez à manger. Et puis avec son dernier personnage, Nathalie, qui, arrivée au moment de la retraite, fait des voyages, va au spa, se fait faire des soins, mais crève de solitude. Elle vit une solitude qu'elle est incapable elle-même de comprendre et d'analyser, alors que, quand on revient en arrière, ces femmes du début du siècle avaient peut-être une vie très dure, mais un sentiment d'appartenir à la fois au lieu où elles vivent, mais aussi à une famille et à la vie. Et ce regard assez noir, parfois cruel, sur les personnages de Mathilde Ribot, je trouve qu'il est très intéressant aujourd'hui où on est en train de se demander ce que le progrès, en particulier le progrès technique, le confort, nous a apporté.
Alors, Agnès, vous m'avez demandé de passer une chanson de Boris Vian qui fait écho à ce roman, hein, Un siècle de femmes. C'est évidemment la complainte du progrès.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux autrefois s'il
arrivait. Et la tourniquette, tout le monde chante dans le studio. Hein, voilà, Boris Vian, à l'occasion de la sortie de ce livre, Un siècle de femmes, c'est signé Mathilde Ribot et c'est à l'Atelier Contemporain. On continue à parler du progrès, du futur, de ce que nous allons devenir. Agnès était allée en Normandie pour préparer cette émission. Et bien vous, François-Xavier, vous êtes allé à Londres, vous êtes allé saluer la naissance d'un nouveau roi, mais aussi vous êtes allé à Londres, qui est la capitale des comédies musicales, après Broadway bien sûr. Hein. Et vous êtes allé voir Back to the Future. Alors Back to the Future, hein, Retour vers le futur, c'est à l'origine un film qui a bercé votre enfance.
Oui, c'est un film de Robert Zemeckis, sorti, si ma mémoire est bonne, en 1985. C'est un film, moi, que j'ai vu et que je continue à voir régulièrement. Je pense que je le regarde à peu près une ou deux fois par an, avec mes enfants, seul, avec des amis. C'est un film qui a énormément compté pour moi, parce qu'il il incarne magnifiquement, je trouve, cette insouciance du début des années 80, qui est très belle aujourd'hui, où on a peut-être une jeunesse plus angoissée. Là, on suit ce héros, Marty McFly, qui est un jeune adolescent américain typique, qui joue dans un groupe de rock de la guitare, qui fait du skateboard dans les rues, qui est très amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Jennifer. Et il va lui arriver une aventure incroyable, et c'est ce que raconte la saga Retour vers le futur.
Alors, sur scène, en comédie musicale, ça donne quoi ?
Alors ouais, en fait, il faut savoir que donc le principe du film, c'est quand même que ce jeune Marty McFly est dans une famille modeste, ou avec des parents dépressifs, voilà, qui une maman qui boit un peu trop, un père qui a raté sa carrière, et en fait il est très ami avec un savant fou, le docteur Emmett Brown, qui a conçu une machine à remonter dans le temps à partir d'une voiture qui est une DeLorean, voiture emblématique de cette époque-là aux États-Unis, qui est très particulière, avec une carrosserie en inox. Et accidentellement, Marty va se retrouver en 1955 dans la même ville, Hill Valley, qui est une ville fictive, et il va se retrouver au lycée avec ses propres parents. Et donc ça pose de façon, je trouve, à la fois très habile, très, très drôle, et en même temps très profonde, la question de l'hérédité, la question du destin. Et en fait, sans le vouloir, il va avoir une influence sur le devenir de ses parents, qui vont devenir des personnes complètement différentes.
François-Xavier, là, c'est le film que vous nous racontez sur scène. Ça donne quoi en comédie musicale?
Ça donne la même chose. C'est ça qui est fou. Alors moi, je déteste les comédies musicales. Il faut le savoir. C'est la première fois que j'en vois une.
Oh là là.
J'ai toujours refusé d'en regarder avec mes enfants, avec mes parents. J'ai réussi à échapper à la Mélodie du Bonheur et à toutes les comédies musicales
qui ont
été tournées. Voilà. Mais là, c'est mon film culte. Je voulais la voir et je l'ai vue. Et honnêtement, c'est totalement scotchant. Parce qu'en fait, on retrouve totalement l'atmosphère du film, même s'il y a eu quelques ajustements qu'on imagine bien. Ils l'ont fait de manière très habile.
Ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne excellemment bien. Et si vous voulez, moi j'ai été scotché parce qu'ils arrivent à faire voler la voiture. Ils utilisent aussi, ils utilisent des écrans, donc il y a des technologies actuelles. C'est hallucinant. Les musiciens sont exceptionnels. Le jeu des acteurs est troublant de mimétisme. Donc on a ce Holly Dobson qui est un jeune chanteur, acteur, danseur d'une vingtaine d'années qui incarne un Marty McFly plus vrai que nature. Roger Bart qui campe le docteur Emmett Brown, fait presque oublier Christopher Lloyd. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et surtout, on a des chansons iconiques qui sont reprises là d'une manière très très maligne avec beaucoup de peps. Et ben voilà, j'étais très heureux de traverser la Manche pour prendre ce shot d'années 80.
Allez, on écoute Power of Love.
My success is the result of some very simple advice a young man gave to me 30 years ago. You can accomplish anything if you put your mind to it. And here's the proof. May I introduce our son, Marty McFly, and his band, the Pinheads. Change your heart to a little white dove. More than a feeling, that's the power of love. Tougher than diamonds, rich like cream. Stronger and harder than a bad girl's dream. Make a bad one good.
Power of Love, Back to the Future, ça arrive en France, François-Xavier?
Pas à ma connaissance pour l'instant, mais
si voilà, ça marche à Londres, ça viendra à Paris,
ouais,
c'est sûr.
Non, mais honnêtement, c'est un très très bon moment et on en prend plein les yeux et plein le cœur.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Dernière halte dans cette émission, nous nous arrêtons autour d'un festival qui fête ses 20 ans, ça se passe chez vous Éric Dupré, à Saint-Gaudens, c'est le Jazz en Comminges.
Oui, Jazz en Comminges, alors pourquoi Comminges? Parce que le Comminges c'est la région de Saint-Gaudens, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et donc oui, les 20 ans cette année, qui correspondent à la 20e édition, puisque en 2020, à cause du Covid, il n'y en a pas eu. Alors, un petit rappel historique, c'est que Saint-Gaudens, c'est la ville de naissance du saxophoniste Guy Lafitte, qui a été très connu sur la scène jazz française jusqu'à sa mort en 1998. Et en 2003, il y a une bande de passionnés qui a créé ce festival en hommage à Guy Lafitte. Et puis comme souvent, on fait ça en se disant ça va durer 1, 2, 3 ans. Et ben, ça a pris racine et c'est devenu aujourd'hui un festival vraiment très important avec les représentants les plus connus de la scène de jazz internationale, comme on peut les avoir à Marciac, qui est encore un festival d'envergure supérieure, mais tout de même, Jazz en Comminges, c'est 15 000 visiteurs chaque année. Sur 4 jours, c'est au pont de l'Ascension. Donc cette année, c'est du 17 au 20 mai. Ça commence le 17 au soir. Dans le Hin, il y aura 2 concerts chaque soir au Parc des Expositions. Il y a un off aussi. Et la formule de ce festival, c'est vraiment une programmation résolument éclectique pour qu'on y voit eh bien, tous les courants, tous les mouvements et toutes les générations du jazz, des plus jeunes aux plus âgés, avec aussi des représentants de la scène locale dans le off et régionale, 2 jeunes pousses, des talents en devenir. et des talents de venir de la scène internationale. C'est la grande fête. Il y a un parc des expositions qui peut accueillir tout de même 2000 personnes. Et cette année, on va avoir, très rapidement, il y aura Didi Bridgewater, Amazing Keystone Big Band, Stéphane Belmondo, Marcus Miller, Kenny Garrett. Voilà. Et pour terminer, concert de clôture avec Monty Alexander.
Vous nous le présentez?
On nous parle beaucoup du jazz cubain. Alors lui, il est jamaïcain, Monty Alexander. Et il a commencé, il y a fort longtemps maintenant, il y a 60 ans, puisqu'il approche, je crois qu'il va avoir 77 ans. Il a commencé avec des gens comme Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Quincy Jones.
Hein.
Oui. Ah oui, c'est un pianiste formidable. Et là, il va rendre hommage à Thelonious Monk. C'est un programme hommage à Thelonious Monk, qui est un de ses grands inspirateurs et un de ses maîtres. Bon, Monk, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça a été... c'est le fondateur du bebop. Alors certains disent que c'est Charlie Parker. Bon, on va dire que c'est Charlie Parker et Thelonious Monk. Monk qui est mort en 1982. L'an dernier, on a commémoré les 40 ans de sa mort. Pianiste époustouflant, éblouissant et personnage mythique, bien au-delà même de la scène de jazz. Tiens, Philippe Soler s'était intéressé à Thelonious Monk.
Et on fait les liens dans cette émission, j'aime bien ça.
Eh ben oui, et donc c'est un programme où il va rejouer à sa manière. Je rappelle donc qu'il est jamaïcain, donc il y a du reggae qui passe aussi dans son jazz, et donc il y aura des pièces de Monk, pas seulement, mais beaucoup de pièces de Thelonious Monk dans ce programme à la sauce Monty Alexander. Il va jouer avec son quartet et il va même faire une chose qu'il a jusqu'alors, je crois, jamais fait sur scène. Il va chanter en même temps. Et arrivé à un certain âge, on peut se permettre des choses qu'on n'osait pas se permettre avant. Voilà, donc ça sera le concert de clôture le 20 mai. Alors le festival dure jusqu'au 21, mais la soirée de clôture du In, c'est le 20 mai, et lui passera à 23h sur la scène du Parc des Expositions. Et si vous le voulez bien, je propose de terminer avec un dernier extrait musical que vous allez nous passer, Mysterioso, pièce très connue, un morceau très connu de Thelonious Monk, mais à la sauce Monty Alexander.
On écoute. Monty Alexander qui jouait un morceau de Mysterioso. C'était le choix d'Éric Dupri pour cette 20e édition du festival Jazz en Comminges à Saint-Gaudens. Ça sera donc, vous nous rappelez la date du concert, Éric ?
Alors le sien, c'est le 20 mai à 23h.
Voilà. Et bien voilà, c'est avec ces notes que se termine cette émission Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Merci de l'avoir suivi. Merci aux chroniqueurs Éric Dupri, Agnès Manoret-O'Neill et puis François-Xavier Maigre. Je ne vous quitte pas sans déposer dans vos oreilles une citation, forcément elle est de Philippe Solers, hein. « La fantaisie et la liberté d'imagination ne s'acquièrent pas comme ça, qu'il y faut du temps, de l'obstination, de la sévérité, de la rigueur, des mathématiques, de la raison. » Voilà, je vous laisse méditer tout ça et je vous souhaite à tous un excellent week-end.